Radio Kapi.
Prise de fonction hier à Beni du nouveau commandant de la brigade d'intervention de la MONUSCO, le général Steven Mkande de la Tanzanie, succède au général sud-africain Monwabisi Diakopou qui a dirigé cette brigade pendant un peu plus d'une année. La province du Nord-Kivu a reçu hier 50 000 doses de vaccin Pfizer. Ces doses seront distribuées dans toutes les zones de santé pour renforcer la campagne de vaccination contre la COVID-19. Rose Touombéané, responsable de la dynamique de femmes pour la bonne gouvernance, est l'invitée de la rédaction ce matin. Elle nous parlera des échanges de femmes des différentes associations féminines de la ville de Beni autour de leur apport pour la sécurité dans la région. Bonjour à tous. Le nouveau commandant de la brigade d'intervention de la MONUSCO est entré en fonction hier vendredi. Le général Steven Mkande de la Tanzanie succède au général sud-africain Monwabisi Diakopou qui a dirigé cette brigade pendant un peu plus d'une année. Présent à la cérémonie d'entrée en fonction de son compatriote, l'ambassadeur tanzanien en RDC a salué le travail des troupes onusiennes engagées dans les opérations contre le groupe armé dans la région de Beni. Écoutez, Paul Ignace Mela au micro de Joël Bofingo.
L'événement d'aujourd'hui est une suite d'événements depuis la création de la FIB. Les commandants quittant un pays finissent son mandat, l'arrivant vient d'un autre pays. Donc pour moi, c'est un plaisir qu'on cède la FIB, que les commandements échangés pour les miens. Et malgré le fait que la FIB soit composé en majorité des trois pays, c'est pour cela qu'ils échangent les commandats de la FIB. Mais ils travaillent comme une seule équipe et partagent les pouvoirs comme une seule équipe. Maintenant qu'il y a des opérations en cours, nous sommes conscients des risques et nous avons apporté des bons résultats. Les mêmes zones des rebelles ADF ont été attaquées conjointement par la FIB et l'armée congolaise. Et depuis que le président Félix Tshisekedi a déclaré l'état d'urgence, on assiste aujourd'hui à une recrudescence des attaques des rebelles. Et je vois maintenant que c'est leur fin maintenant. Et là où ils sont, ils n'ont qu'à se rendre aux soldats de la paix, car ils n'ont aucune chance.
Toujours à Beni, le collectif des femmes journalistes CFJ a déposé une plainte contre inconnu hier vendredi à l'auditorat militaire près le tribunal militaire de garnison de Beni-Boutembo. Il demande à la justice militaire de faire la lumière sur le vol à main armée dont a été victime à deux reprises une journaliste de la place en emportant tous ses biens de valeur et matériel de travail à son domicile. On écoute Maître Nzanzu Kamua de la cellule juridique du CFJ Beni au micro de Guylaine Kassassia.
Le collectif des femmes journalistes n'a pas voulu croiser les bras face à cette agression. Il y a des objectifs que nous poursuivons à déposer cette plainte contre inconnu. Premièrement, nous voulons arrêter à ce que les délais de prescription puissent courir. Vous savez, en procédure ou à justice, il y a un délai à respecter pour rester à justice. Deuxièmement, nous savons que souvent les opérateurs nocturnes travaillent à réseau. Donc nous estimons que le moment venu, si on arrive à arrêter, à démanteler ces réseaux-là, notre cliente peut un jour recouvrer ses droits ou alors arriver même à trouver ces biens qui ont été volés par des cambrioleurs. Rappelez-vous que c'est une femme journaliste, quand elle perd comme ça un ordinateur, quand elle perd un dictaphone, allez-y comprendre que c'est sa profession qui est en danger. Selon la victime, c'est pour la deuxième fois qu'elle est victime d'un acte de ce genre. Donc allez-y comprendre que nous devons agir pour arrêter ça. Nous devons aussi continuer à dire que les journalistes sont à protéger.
Au Maniema, les organisations de la société civile Force Vive réclament l'autonomisation du secteur militaire dans cette province au lieu de dépendre toujours de la province du Sud Kivu. Cette recommandation a été formulée jeudi dernier au cours d'une consultation organisée par le député national John Boupila, élu de Kabambaré en vacances parlementaires au Maniema. Écoutez à ce propos Stéphane Kamundala, président de la société civile Force Vive du Maniema, au micro de Florence Kizalunga.
L'insécurité au Maniema. Sur cet aspect des choses, la société civile du Maniema vous recommande ceci. Allez voir le ministre de la Défense et les chefs d'état-major général pour qu'ils dotent la province du Maniema d'un général dans le cadre d'une zone militaire autonome. Le fait est pour le Maniema de dépendre du Sud Kivu dans le cadre du commandement militaire l'expose à beaucoup d'actes d'insécurité. Parce que ici, les commandants régionaux militaires se trouvent à Bukavu. À Kindu, nous avons un colonel qui n'a compétence que pour les actes de Kindu. Lubutu, Punia et une partie de Tchopo ont un colonel qui fait des choses là-bas pour lesquelles il ne rend pas compte. À Kindu comme chef-lieu de la province. Vous allez à Kababari, d'où vous venez. Car il y a des choses qui se font là-bas sur le plan militaire, mais avec rapport à Bukavu. Conséquence, quand un élément militaire commet des infractions au niveau de Kababare, nous avons du mal à trouver des sanctions exemplaires au travers de leur hiérarchie, parce qu'elles ne se trouvent pas ici.
En santé, la province du Nord Kivu a reçu hier vendredi un lot de 50 000 doses de vaccin Pfizer. Le lot a été réceptionné par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Eku Kalipopo, en présence d'autres responsables de la santé. Selon le chef de division provinciale de la santé, ces doses seront distribuées dans toutes les zones de santé pour renforcer la campagne de vaccination en vue de lutter efficacement contre la pandémie de COVID-19. Ce, avant de souligner que ce nouveau lot est insuffisant par rapport à la couverture de la zone vaccinale dans la province. Le docteur Javier Kubuya explique au micro de Gabriel Aménien.
Il s'agit bel et bien du vaccin Pfizer et nous avons reçu aujourd'hui 50 000 doses. La vaccination, je ne dirais pas de masse, de manière structurée, mais cette vaccination, cette fois-ci, elle va concerner plusieurs zones de santé de la province, quasi toutes, en fonction de la disponibilité des moyens logistiques qui sera mis à notre disposition, bien entendu. Donc, nous allons déployer ces vaccins partout pour qu'ils soient administrés d'abord aux personnes à risque. Les personnes à risque, ce sont les professionnels de santé, les personnes qui sont souvent dans de grands rassemblements, que nous appelons des acteurs sociaux, genre les enseignants, les militaires, et des personnes qui vivent malheureusement avec certaines maladies chroniques.
Le chef de division provinciale de la santé salue l'engagement de la population du Nord Kivu dans le respect des mesures barrières et leur adhésion volontaire à la vaccination, ce qui a permis, selon lui, à réduire le taux de prévalence dans les structures de prise en charge des malades. Plusieurs violences sexuelles et violences basées sur le genre constituent le boulevard des maladies sexuellement transmissibles en RDC. Et cela impacte négativement la santé reproductive de la jeune fille et de la mère. Révélation faite par le RENADEF au cours d'une conférence de presse animée hier vendredi à son siège à Kinshasa. Partant de 3665 cas de violence recensés antérieurement dans quelques provinces de la RDC, le réseau national des ONG pour le développement de la femme a arrêté des stratégies pour endiguer ces phénomènes, notamment l'installation des cliniques juridiques et des numéros verts pour des interventions rapides. Selon la coordonnatrice de ce réseau, son plaidoyer a convaincu les partenaires internationaux et nationaux à considérer cette donne, mais il faut continuer le plaidoyer. On écoute Zainé Nyombo au micro de Jeff Ngoy.
Dans les temps, tous les partenaires qui intervenaient ne pensaient pas que les violences sexuelles basées sur le genre constituaient le boulevard de la transmission de maladies sexuellement transmissibles. Et avec UNIFEM dans les temps, UNIFEM actuellement, on a y amené ça, c'était sous forme d'une étude, sur les 3665 cas, c'est toutes les formes de violences confondues. Il y avait et les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Sur ces 3665, il y avait 1500 cas des victimes de violences sexuelles. Et de ces 1500 cas, il y a eu 435 cas qui ont révélé un statut sérologique positif au VIH. Et c'est par là qu'on a aiguillé ces cas à travers le mécanisme que nous avons mis en place, clinique juridique. Et sur base de ces stratégies, les partenaires se greffent pour travailler. C'est comme ça que nous avons vendu ces évidences auprès des partenaires qui ont accepté l'intégration dans les documents stratégiques pays.
La fermeture de la faculté de médecine à l'université de Bandundu préoccupe le gouvernement provincial du Kwilu qui se mobilise afin de sauver cette faculté. Pour ce faire, il vient de lui doter d'une clinique moderne nouvellement construite sur fonds propres. Elle est installée dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Bandundu. Ceci pour permettre à cette faculté de répondre aux critères du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Cet hôpital servira aussi de centre de recherche pour les étudiants. L'annonce a été faite par le vice-gouverneur de province, Félicien Kiwai, qui appelle la population à la patience et qui espère que la situation de l'Uniband sera décantée car toutes les conditions sont remplies selon lui. Ses propos sont recueillis par Irène Bauman.
Nous avons réuni tout pour que nous puissions déjà sauver cette faculté. Et nous allons faire tout pour que, à la seconde fois quand on va revoir la situation générale des facultés de médecine, que notre situation de la ville de Bandundu soit parmi les situations qui seront sauvées. Pourquoi? Parce que nous avons seulement que deux faits. Et les deux faits, on a déjà balayé. Et si le plan des ressources humaines, nous avons déjà les critères répond. Et si le plan des infrastructures, nous avons déjà doté notre hôpital général à la faculté de la médecine et qui est déjà une condition sine qua non et qui répond maintenant aux critères. Donc là, nous sommes déjà dans le bon. Nous allons recadrer les choses ensemble avec nous-mêmes et l'Assemblée provinciale. Nous allons converger nos énergies au ministre national et je parie que nous aurons gain de cause. Nous demandons à la population d'être calme, de garder encore leur patience parce que d'ici là, avant qu'on puisse décanter la situation qui ronge toute la République, celle de Bandundu aussi sera décantée dans la même enveloppe.
Après la fermeture de la faculté de médecine au sein de l'université de Bandundu Uniband, les étudiants sortent de leur silence. Dans une déclaration faite à la presse hier vendredi, ils indiquent que leur université regorge d'un corps professoral fourni et d'un centre hospitalier que le Conseil national de l'Ordre de médecins n'a pas inséré dans son rapport, tout en invitant le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à prendre en compte les recours introduits par le comité de gestion. Ils exigent du gouvernement provincial du Kwilu la construction immédiate d'une clinique universitaire comme celle dotée à l'université de Kikwit. Un extrait de cette déclaration est lu ici par Dercy Ndoya, coordonnateur des étudiants de l'Uniband, au micro d'Irène Bauman.
Ici pour nous l'occasion de porter à la connaissance de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, que la faculté de médecine de l'Université de Bandundu nous regorge un corps professoral fourni, dont fait partie le vice-doyen chargé de l'enseignement. Nous citons le professeur Dr Emery Metello, bien avant le contrôle du Sénat. Les dossiers portant nomination par le recteur de l'Université de Bandundu de certains professeurs attendent l'entérinement par l'arrêté ministériel. Concernant la clinique universitaire, nous tenons à vous faire savoir que l'Université de Bandundu possède bel et bien son centre hospitalier universitaire que le délégué du Sénat a omis dans son rapport. Au gouvernement provincial, nous exigeons la construction urgente et immédiate de nouveaux bâtiments en vue de rendre encore plus viable notre faculté de médecine, comme ce fut le cas avec l'Université Sœur de Kikwit. Ceci dans le souci de rétablir la paix sociale fortement menacée et l'équité en bon père de famille. Nous invitons le ministre des Déchus à prendre sans attendre les arrêtés portant nomination des non-professeurs dont les dossiers gisent dans son bureau et à traiter notre recours avec beaucoup d'objectivité.
Comment réduire la dépendance au bois énergie dont la consommation est évaluée à 58% par des experts et encourager le recours à l'énergie de substitution pour la cuisson en RDC? C'est la raison d'un café de presse organisé jeudi par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds d'équipement des Nations Unies à Kinshasa. Au cours de la rencontre, il a été procédé à la remise symbolique de chèques d'appui à une douzaine de petites et moyennes entreprises bénéficiaires du Fonds des défis et incubation pour la cuisson propre en RDC. Jean-Pierre Elali Koko a vécu l'événement. Voici son reportage.
Il s'est agi au cours de ce café de presse de présenter le Fonds des défis et incubation pour la cuisson propre en RDC et de procéder à la remise symbolique des contrats de partenariat et chèques aux entreprises partenaires de ce fonds financé par CAFI à travers les fonds NARED. Dans son mot de circonstance, le représentant résident adjoint du PNUD, chargé de programme, Laurent Arruda Singwa, est revenu sur l'objectif du programme.
Le programme Énergie pour NARED est un programme stratégique pour impulser une transformation structurelle qui touche le mode de vie des ménages en RDC. Il permet d'engager le pays dans sa transition énergétique.
L'ambassadeur du Royaume de Norvège en RDC, John Age Oislebourg, représentant les bailleurs de fonds, parle des défis à relever.
On a une dépendance par la population congolaise à la biomasse comme énergie de cuisson. Deuxième, l'utilisation de makala crée des problèmes de santé, en particulier pour les femmes et les enfants. Et troisième, la consommation de bois énergie est responsable de plus que la moitié, 58%, de la dégradation des forêts.
Le clou de la rencontre a été sans doute la remise symbolique des chèques aux 12 entreprises partenaires bénéficiaires du Fonds des défis. Ces fonds servent à appuyer leurs activités en vue de plus de performances et d'efficacité.
Actualité internationale. Éruption volcanique en Espagne, 7 vols annulés à l'aéroport de l'île de la Palma aux Canaries. Les 7 vols prévus vendredi à l'aéroport de l'île espagnole de la Palma dans l'archipel de Canaries ont été annulés en raison de l'important nuage de cendres dégagé par le volcan Cumbre Vieja en éruption depuis dimanche, a annoncé la société gestionnaire des aéroports espagnols AENA. Le président rwandais Paul Kagame est arrivé hier vendredi dans le nord du Mozambique pour une visite de 2 jours. C'est la première fois qu'il se rend dans le pays depuis l'envoi en juillet dernier d'un millier de policiers et militaires rwandais dans la province du Cabo Delgado pour prêter main forte à l'armée mozambicaine dans la lutte contre l'insurrection des djihadistes d'Ansar al-Sunna, communément appelé Shebab.
L'invité.
Rose Touombéani, responsable de la dynamique de femmes pour la bonne gouvernance, est l'invitée de la rédaction ce matin. Elle nous parle des échanges entre son organisation et une centaine de femmes de différentes associations féminines de Béni sur l'apport de femmes pour la sécurité dans la région. Rose Touombéani s'entretient avec Guylaine Kassassia.
Madame Rose Touombéani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le point focal de la dynamique de femmes pour la bonne gouvernance d'IFEGU. Vous avez organisé une activité à Béni. Pourquoi cette activité à ce moment?
Cette activité, le lendemain de la journée mondiale de la paix, parce que la DIFEGU, depuis étant, est impliquée dans la recherche de la paix. Alors, notre siège social étant à Butembo, nous avons pensé qu'il faudrait que nous puissions organiser cette activité ici à Beni pour associer les mamans, les organisations, les mamans et les jeunes filles et à cette activité. Nous sommes venus aussi avec les délégués d'autres organisations féminines de Butembo parce que l'activité, c'est une séance de réflexion des femmes de Butembo et Beni sur ce qui se passe chez nous, les massacres notamment, et essayer de voir comment l'état de siège est en train de nous mener et qu'on puisse se projeter des actions à mener en tant que citoyenne, en tant que femme, pour le retour de la paix.
Donc, vous avez trouvé que seul à Butembo, cela ne peut pas bien marcher?
Non, nous avons pensé que dans la synergie, ça peut encore aller mieux, parce que nous travaillons depuis un temps ensemble, même les actions de plaidoyer que nous avons menées, les femmes de Béni étaient toujours associées. Maintenant, il fallait que nous puissions aussi associer cette femme de Béni à cette réflexion, pour que nous puissions avoir les idées des femmes de Béni, et parce que c'est elles d'abord les victimes directes.
Oui, Rose Touombéani, sur quelle base avez-vous sélectionné les participants?
Nous avons sélectionné les femmes des organisations féminines, les femmes des marchés. Nous avons associé les jeunes filles des conseils urbains, non seulement urbains, des conseils communaux aussi, même jusqu'au quartier. Et nous avons aussi sélectionné les mamans qui travaillent, qui nous représentent dans les services étatiques. Nous avons aussi sélectionné les femmes des groupes de pression, les femmes de l'éducation aussi, comme elles sont à congé. Bref, nous avons essayé de toucher toutes les couches où nous pouvons trouver des femmes qui peuvent concourir à la paix. Et c'est aussi une façon pour nous de leur parler de notre responsabilité, non seulement des actions envers les autorités, mais notre responsabilité, où nous avons profité encore pour vulgariser notre campagne sur SECO, surveillance sécuritaire à base communautaire, parce que nous avons pensé que les couches représentées ici sont sensibles lorsqu'il faut chercher la paix, parce qu'il y a aussi des tenanciers d'hôtels ou des restaurants.
Vous venez de parler de surveillance à base communautaire. On peut savoir en bref comment les femmes vont procéder pour y parvenir.
Nous venons de demander aux femmes que nous sommes des actrices de la paix. Même si nous sommes victimes, mais nous devons aussi être actrices de la paix. Et juste en surveillant les mouvements d'abord de nos enfants, de nos maris, c'est-à-dire de nos foyers, mais aussi les mouvements des voisins, les mouvements des collègues avec qui nous prions à l'église, des chrétiens, les mouvements même des clients. Parce que les femmes font des activités commerciales. Elles doivent aussi voir qui achète quoi régulièrement, qui achète un produit suspect. Donc, Bref, nous leur avons demandé de pouvoir dénoncer les mouvements suspects.
Vous avez organisé l'activité en synergie avec les femmes de Beni. Peut-on savoir si cette surveillance à base communautaire à Butembo, si cela a déjà payé?
Oui, ça paye, même ici à Beni, parce que nous avons une antenne ici à Beni, ça a déjà payé. Et nous avons plusieurs alertes que nous remontons aux autorités, soit au maire, soit aux autorités militaires. Ça dépend de la façon ou de la personne visée ou concernée par l'alerte. Ça produit, c'est vraiment extraordinaire, ça se passe très bien. Lorsque les moyens de communication, de transport vont nous permettre d'aller jusqu'à Ituri pour que nous puissions travailler en synergie, les femmes des deux provinces sinistrées.
Oui, mais c'était peut-être la dernière question, Madame Rose Tombiane. D'où tirez-vous les ressources pour l'organisation de vos différentes actions?
Ce que nous faisons, c'est vraiment les bénévolat. Parce que nous, on a compris que c'est nous qui avons besoin de la paix. Par conséquent, nous avons l'obligation de contribuer. Et nous travaillons avec des jeunes pour cette campagne ici sur Siseko, des jeunes bénévoles. Les gens ont déjà compris, nous cotisons aussi, nous avons compris cet élément de sacrifice et c'est comme ça que nous faisons. Mais il y a aussi, et lorsque nous avons des actions de grande envergure, nous pouvons aller vers certaines personnes qui sont devenues comme membres d'honneur. C'est comme ça que nous fonctionnons.
Madame Rose Tombiane, nous rappelons que vous êtes le point focal de la dynamique de femmes pour la bonne gouvernance du FEGU. Nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie. Merci Radio Okapi.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.